fiebre hai.
Salut à vous à la recherche du groove perdu, session 309, une émission musicale à géométrie variable diffusée sur RDWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Dragon et Radio Transparence. Cette semaine, on quitte les Caraïbes et les Antilles françaises pour un îlot de 1 km² situé dans l'océan Indien, au beau milieu de nulle part, à 500 km de Madagascar et 600 de la Réunion. Cet îlot, c'est l'île de Tromelin, découverte en 1722. Par un navire de la Compagnie des Indes orientales. Depuis lors, de nombreux bateaux se sont fracassés contre ces récifs coralliens du fait d'une mauvaise connaissance de sa position sur les plans anciens de navigation. On l'a désigné alors comme l'îlot sable. Sur cet îlot, du sable en effet, quelques petits arbustes et puis rien, à part des oiseaux qui viennent y nicher et des tortues qui viennent pondre. Un milieu contraignant, voire hostile, balayé par les vents et les ouragans qui sont nombreux dans la région. Cette île qui appartient officiellement à la France est connue pour la station météo qu'elle abrite depuis 1950, mais surtout pour les histoires de survie qui s'y sont déroulées au 18e et 19e siècle. La plus connue et la plus tragique s'est déroulée entre 1761 et 1776. Un bateau de commerce, l'Utile, transporte alors des marchandises à son bord ainsi que des esclaves malgaches. 160 hommes, femmes et enfants embarqués à full pointe sur la côte orientale de Madagascar pour les vendre sur l'île Maurice malgré l'interdiction de la traite décrétée par le gouverneur. Une erreur de navigation due à l'utilisation de deux cartes contradictoires et à la navigation de nuit fait échouer le navire sur les récifs de l'île Tromelin. La suite, vous allez l'entendre à travers le récit d'un archéologue, Max Guérou, qui a étudié les vestiges du passage de ces esclaves sur l'île avec une équipe de chercheurs. Il nous raconte l'histoire de cette survie qui va durer pendant 15 ans, l'organisation des survivants, les conditions de survie psychologiques, matérielles, sociales et les interrogations qui persistent encore sur ce que sont devenus les quelques rescapés. Voilà l'histoire du jour, celle des esclaves oubliés de l'île de Tromelin, une histoire qui a fait l'objet d'une BD de Sylvain Savoya, d'un livre écrit par Irène Frey en 2009 et puis d'un documentaire long de 55 minutes qu'on peut retrouver dans les sites de streaming classiques. On écoutera pour la partie musicale de la musique traditionnelle malgache. Vous pourrez entendre notamment la valia, cette sorte de sitar en bambou utilisée sur toute l'île de Madagascar et qui résonnait peut-être dans la tête de ces esclaves perdus au milieu de nulle part. C'est parti pour une heure d'histoire, une heure de musique et d'histoire en musique, direction l'île de Tromelin, dans l'océan Indien.
Vous êtes archéologue et vous rentrez d'une mission qui vient d'être conduite sur l'île de Tromelin. L'île de Tromelin a été le théâtre d'un drame en 1761. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce drame?
Oui, en 1761, un bateau de la Compagnie des Indes, en fait un navire de charge de la Compagnie des Indes, qui s'appelle l'Utile, qui avait été armé à Bayonne, fait naufrage sur l'île de Tromelin. Il se trouve qu'il transportait, en plus de son équipage, des esclaves malgaches qu'il avait été achetés à Madagascar, dans le nord-est de Madagascar, bien qu'on lui interdit au départ de l'île de France d'en acheter. Donc en gros, le bateau part de France, de Bayonne, arrive à l'île de France et on l'envoie à Madagascar chercher des vivres. On lui interdit d'acheter des esclaves, ce qu'il fait. Et manque de chance, le bateau s'échoue pendant la nuit sur Tromelin.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, alors, ce qui se passe, c'est que bon, le naufrage, bien sûr, c'est toujours quelque chose de à la fois extrêmement brutal et traumatisant. Bien que la mer ne soit pas abominable, le bateau bien sûr se disloque pendant la nuit parce qu'il s'échoue pendant la nuit. Une grande partie de l'équipage réussit à se sauver. Il y a sur 150 membres d'équipage embarqués à l'époque, 18 marins qui se noient. Par contre, pour les esclaves malgaches, c'est très différent, puisque craignant, comme le bateau n'était pas équipé pour la traite, c'était un bateau normal, on avait parqué les esclaves, qui est 160 esclaves, dans la cale du navire, et on avait cloué les panneaux de cale de crainte d'une révolte. Et donc au moment du naufrage, bien sûr, on ne s'occupe pas des esclaves, et ils ne réussissent à se sauver que lorsque le bateau se disloque. Donc pratiquement 60 à 80 d'entre eux sont noyés pendant le naufrage.
Et donc les hommes d'équipage et les esclaves échouent sur cette île de Tromelin qui ressemble à quoi ?
C'est une île qui est étrange parce qu'elle est d'abord extrêmement petite, hein, elle fait 1 km². C'est-à-dire qu'elle fait 1700 mètres de long sur 750 mètres de large. Très basse, le point culminant est à 7 ou 8 mètres d'altitude. Il n'y a pas d'arbres, il y a des arbustes, mais pas d'arbres. Donc on est vraiment sur l'île déserte type.
Il y a de l'eau ?
Il n'y a pas d'eau, mais il est bien évident que si on ne réussit pas à trouver de l'eau rapidement, l'ensemble des naufragés va mourir en peu de temps. Donc le premier souci est d'essayer de creuser un puits au centre de l'île. D'expérience, moi j'ai travaillé sur plusieurs naufrages et effectivement à l'époque les gens savaient qu'en creusant pas loin du rivage, on arrivait à trouver de l'eau saumâtre buvable. Et c'est ce qui se passe, un premier essai est négatif et au centre de l'île, qui est d'ailleurs une dépression, il creuse un puits et trouve à 5 mètres de profondeur, il trouve de l'eau. Donc cette eau va assurer la survie de tout l'équipage et des esclaves malgaches donc pendant leur séjour. Donc à ce moment-là, les marins français, sous l'impulsion du second du navire, parce que le capitaine semble avoir été complètement accablé par le naufrage, donc c'est le second qui entreprend de construire un bateau de fortune avec les débris du bateau. L'équipage d'ailleurs est très, très peu coopératif et ce sont en partie les esclaves qui aident à construire ce bateau. Et en 2 mois, réussissent à construire un bateau qui fait 15 mètres de long, sur lequel ils entassent tous les marins, tout l'équipage de l'Utile, à l'exception des malgaches qu'on laisse sur l'île. Et d'ailleurs, quand ils embarquent, on a le récit de l'écrivain du bord, il dit on était entassés comme des sardines. Donc on le conçoit d'ailleurs, pour mettre 135 personnes sur un bateau de 15 mètres, il faut bien les entasser. On pense au bateau d'émigrés actuels où on voit des entassements extraordinaires. Et là, donc, le bateau s'en va, laissant complètement médusés les malgaches. On leur laisse quand même des vivres, puisqu'on a récupéré sur le bateau naufragé tout ce qu'on pouvait de vivres. On leur laisse une lettre au cas où un bateau passerait pour expliquer pourquoi ils sont là, et on leur promet de venir les rechercher. En réalité, on ne viendra pas les rechercher. C'est une longue histoire d'ailleurs, et les rescapés de ces 80 malgaches que l'on laisse sur cette île seront sauvés 15 ans après. Il ne restera 7 femmes et un bébé de 8 mois. Thank you.
Deuxième extrait de l'interview de Max Guéroux, directeur des recherches archéologiques qui ont eu lieu sur l'île de Tromelin. Il nous parle ici du témoignage des quelques survivants qui ont permis d'en apprendre un peu plus sur leur mode de vie durant ces 15 années d'isolement. Et on écoutera ensuite l'homme Rakotozafi. Pas facile à prononcer le nom malgache. Tout de suite, deuxième extrait d'interview, Max Guéroux.
C'est la vraie question, donc, et c'est la raison pour laquelle on a, après avoir fait un gros travail de recherche historique autour de cette histoire, donc on tout l'environnement de cette histoire, on le retrouve dans les archives. Par contre, ce qui s'est passé pendant les 15 ans sur l'île, on a très peu de témoignages. On a le témoignage des femmes rescapées. Mais le vrai rapport dans lequel peut-être il y avait plus de détails sur la manière dont ils avaient survécu, je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'ai 3 ou 4 pièces de correspondance où on dit en gros, les femmes disent qu'ils attendent le secours pendant un certain temps, probablement 1 an ou 2, puis 18 d'entre eux construisent un radeau et s'en vont. Je pense que la majorité des gens qui étaient les plus faibles psychologiquement ou physiquement sont morts au début. Et ils se retrouvent pratiquement pendant 12 années, 15 de personnes, jusqu'au moment du sauvetage final. Donc on reviendra sur le sauvetage final, mais pour vivre, donc, ils vivent essentiellement de tortues. Bon là, c'est une chance, l'île de Tromelin est un endroit de ponte de tortues, il y a énormément de tortues, donc de ce côté-là, ils avaient de la nourriture, des oiseaux aussi. Il y avait des colonies de sternes qui sont des petits oiseaux mais qui vivent en colonies extrêmement nombreuses, des centaines de milliers voire des millions d'oiseaux. Donc quand ils viennent pondre, c'est assez facile de les capturer ou de les abattre et de se nourrir. Et puis elles disent qu'ils construisent des habitats avec des blocs de corail. Et que quand on les retrouve, elles sont vêtues de plumes d'oiseaux tissées. Parce qu'ils ont bien sûr, au bout de 15 ans, ils n'ont plus de vêtements. Et elles affirment également avoir entretenu le feu pendant 15 ans. Donc c'est tout ce qu'on sait sur leur séjour. Là.
Marchons à rêver!
Un grand nombre de textes d'archives a permis d'éclairer le contexte historique, l'armement, le voyage et les circonstances du naufrage de l'Utile. Mais comme le dit Max Guéroux dans le dernier extrait, les documents décrivant la vie des survivants malgaches sur l'île de Sable sont rares. Le but des 4 missions archéologiques conduites à Tromelin entre 2006 et 2013 a donc été de combler Ce vide, ce silence, après des recherches historiques exhaustives, le GRAN, groupe de recherche en archéologie navale, entreprend en 2006 une première campagne de fouilles à Tromelin. Avec l'aide de l'INRAP et de l'UNESCO, cette première mission permet de réaliser la fouille sous-marine de l'épave de l'Util et à terre d'identifier certains lieux liés à la présence des naufragés. Il s'agit notamment des vestiges du four et des restes de construction en blocs de corail, interprétés comme un des abris édifiés par les naufragés après le départ des Français. Bilan des premières recherches dans ce nouvel extrait. C'est parti.
Sur l'île de Tromelin, la première date de 2006.
Oui.
Donc, que vous ont appris ces missions, et en particulier la dernière, qui s'est déroulée du mois d'août au mois d'octobre dernier?
Oui, tout à fait. Donc, cette année en particulier, on a essayé de faire un travail pour essayer de vérifier dans le sol archéologique s'il restait des traces de végétaux consommés. De toute manière, ces végétaux, ce n'est que deux ou trois possibles. Donc sur le plan de la vie, de la survie, c'était très rapidement, on a eu les certitudes. C'est-à-dire qu'on a une grande chance sur cette fouille, c'est qu'après le départ, le sauvetage de ces naufragés, l'île est déserte et le sable s'accumule, en particulier parce qu'ils ont construit des habitats dont on va parler, et que ces habitats ont le rôle d'écran vis-à-vis du vent, et donc le sable va s'accumuler. Et tout le site archéologique est recouvert d'une couche de 30 cm de sable blanc, une espèce de scellé mis sur le site archéologique, qui pour nous est extrêmement précieux, parce que quand ce sable blanc est présent, on sait que ce qui est dessous est intact. Quand il n'est pas là, on sait que c'est l'installation de la station météo qui a lieu en 1954, qui a perturbé le sol. Pour nous, c'est très très intéressant, parce qu'on est sûr, quand il y a le sable blanc, on est sûr que ce qui est dessous date d'avant 1776. Donc, après, on a travaillé sur les habitats, donc avec une première surprise, c'est qu'on trouve des habitats qui sont construits avec des blocs de corail ou avec des blocs ou des plaques de... En français, on appelle ça du beach rock. C'est une espèce de ciment naturel qui se forme, ça fait du grès de sable, on dit, qui se forme sur les îles avec de la poudre de corail, de l'eau et du soleil. Et ce sont des plaques de 6 à 7 cm d'épaisseur, mais qui sont grandes. Donc, la base des murs est faite avec des plaques verticales, et après, on empile dessus des blocs de corail ou des plaques horizontales. Alors, ce qui est surprenant, c'est que, venant de Malgache, construire un habitat en pierre est totalement improbable. À l'époque, il y a des interdits royaux qui interdisent de construire les maisons en pierre parce que la pierre est réservée aux tombeaux. Et ce qui est curieux, c'est que le type de construction qu'ils adoptent, c'est exactement la structure des tombeaux que l'on trouve à Madagascar, c'est-à-dire des pierres verticales avec des... Et donc, on conçoit bien que déjà, on arrive à un stade de compréhension du fonctionnement de ce groupe de Malgaches. Intéressant, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a probablement un débat, parce que je ne conçois pas que des gens pour qui la tradition, les tabous sont très importants, acceptent sans en discuter de vivre dans quelque chose qui sera perçu par eux comme vivre dans un tombeau. Et donc il y a déjà cette adaptation qui est vraiment très très intéressante. Et c'est le premier point qui nous intéresse, qui montre qu'il y a au-delà de la survie une petite société qui se construit avec des problématiques très très intéressantes, puisqu'elle les oblige à aller au-delà des tabous et des interdits qui étaient leur quotidien à Madagascar.
Yeah. Thank you.
recherche du Groove Perdu, session 309. L'expédition radiophonique du jour se situe dans l'océan Indien, sur un minuscule îlot de corail et de sable, lieu d'une des plus tragiques histoires de survie qui a été médiatisée ces dernières années avec la parution d'un bouquin, d'une BD et d'un documentaire. Cette histoire, c'est celle des esclaves oubliés de l'île de Tromelin. Ils sont 160 lors du naufrage en 1761 de l'Utile. 80 arrivent à rejoindre l'îlot. Ils participent à la construction d'un nouveau bateau qu'ils baptiseront la Providence, mais on va les laisser sur place avec 3 mois de vivre en leur promettant de revenir les chercher plus tard. Voyant qu'ils avaient été oubliés, certains esclaves ont essayé de quitter l'île, d'autres sont morts de maladie ou sont devenus fous à force de tourner en rond sur ce kilomètre carré de terre ferme. Des recherches archéologiques menées à partir de 2006 permettent d'en savoir plus sur l'histoire de cette survie. Après celle de 2006, 3 autres campagnes de fouilles archéo ont été menées en 2008, 2010 et 2013. Ces dernières ont permis d'illustrer la vie des naufragés durant leurs 15 années d'oubli. Près de 1500 objets ont été exhumés, 12 bâtiments étudiés. Des restes de faune ont donné de précieux indices sur l'alimentation des naufragés. Les os de 2 individus, malheureusement bouleversés par la construction de la station météo, ont fourni des informations sur les naufragés eux-mêmes. Explications et précisions sur ces enseignements de ces campagnes de fouilles archéo, on retrouve une nouvelle fois Max Guérou, c'est parti.
Autre aspect, et ça c'est plutôt la dernière mission, dont je rentre, c'est que maintenant on a la certitude que l'habitat initial a été construit comme un hameau, où tous les bâtiments sont l'un à côté de l'autre, une espèce de groupe. Là aussi, c'est contraire à la tradition malgache, où l'habitat familial est indépendant et isolé. Toute une famille, pas forcément une famille, un clan familial vit dans une maison, dans un enclos séparé. Il n'y a pas de mitoyenneté entre les maisons. Et là, on a au contraire des bâtiments qui sont les uns contre les autres. Et psychologiquement, c'est l'image de la solidarité, c'est vraiment très très intéressant. Les bâtiments nous ont donné aussi d'autres pistes intéressantes, c'est-à-dire qu'on a la certitude maintenant qu'à un moment donné, probablement à la suite d'un événement climatique, probablement un cyclone, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Tromelin se trouve sur la route des cyclones de l'océan Indien. C'est pourquoi il y a eu une station météo en 1954. Avant l'apparition des satellites, elle servait de station d'alerte pour Madagascar. Lorsque certains cyclones violents passent à proximité de l'île, l'île est en partie inondée. Et il est probable qu'à l'occasion d'un de ces cyclones, leur bâtiment ait été mis en danger, ou inondé, ou détruit. Et ils ont construit un mur, mais qui fait 3 mètres de large et une dizaine de mètres de long, en détruisant des bâtiments déjà existants pour se protéger. Et là aussi, on voit bien que ce sont des gens qui gèrent leur environnement et qui donc dominent un peu leur statut de naufragé.
Et le feu, qui est une question importante pour des
Alors
naufragés.
Le feu, au début, l'affirmation des femmes était intéressante, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'elles ont conservé le feu? Ce qui me paraissait peu probable, compte tenu des pluies torrentielles qu'il y a quand il y a des cyclones. Ou est-ce qu'elles avaient les moyens de le rallumer? Et la première année, en 2006, on a trouvé une pierre à fusil, mais elle était intacte. Alors donc, ça ne nous avait pas donné de solution. Or, depuis, on a trouvé une dizaine de pierres de silex, mais usées jusqu'à la corde, si j'ose dire, qui font 1 ou 2 grammes, 1 centimètre de large. Donc, et on a trouvé des briquets. Les briquets, à l'époque, ce sont des anneaux de fer qu'on passe sur 2 doigts ou 3 doigts et avec lesquels on tape sur le silex pour faire des étincelles. Donc là, on a eu la solution. Plus intéressant, c'est le... Alors on a eu la chance, en 2008, de trouver la cuisine de ce petit groupe de bâtiments intacte et avec tout son matériel à l'intérieur bien rangé. Alors ça aussi, c'est une image intéressante, parce que le matériel est dans la cuisine et rangé. Donc il y a des gamelles en cuivre, empilées les unes sur les autres, une coquille de triton qui est ces grands coquillages, mais qui a été aménagé en louche sur le dessus. Au centre, il y a 2 grandes bassines en plomb avec des couvercles qui, de toute évidence, servaient à stocker l'eau. Devant la porte, une autre grande bassine en plomb qui sert à stocker l'eau avec un, un tuyau écrasé qui servait de louche également. À droite de la porte, quand on rentre, on trouve les cuillères rangées avec des pics qui sont probablement des fourchettes simplifiées. Puis on trouve des hameçons, des crocs, vraiment un univers très très bien rangé.
Yeah.
La Providence, l'embarcation de fortune qui permit aux marins français de quitter l'île des Sables, atteint Madagascar après 4 jours de mer. Dans les semaines qui suivent ce mois de septembre 1761, l'équipage rejoint Port-Louis à l'île Maurice, anciennement Île-de-France. S'il recueille les rescapés, le gouverneur refuse d'envoyer un navire pour porter secours aux Malgaches. Les années passent et l'indignation première suscitée par la décision du gouverneur s'estompe. En 1772, tourmenté par sa promesse non tenue, Castellan, un marin de l'utile, écrit au secrétaire d'État à la marine pour appeler au sauvetage des Malgaches sur Tromelin. Il faudra encore attendre fin novembre 1777 avant qu'un bateau ne puisse accoster sur l'île et ramener les 7 rescapés. Avant de raconter ce sauvetage, Max Guérou apporte quelques précisions sur l'organisation des Malgaches sur l'île. C'est parti.
On imagine que des survivants sur un petit espace comme ça doivent s'organiser, peut-être mettre en place certains rituels ou élire des chefs, ou je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu des indices sur l'organisation sociale?
Alors, l'indice d'organisation sociale, c'est, à vrai dire, non. Simplement, il ressort de cette gestion de leurs ustensiles, mais plus encore de leur habitat. Savoir que, en gros, cette année, on a acquis la certitude, bien que ce ne soit qu'une période au niveau archéologique de 15 ans, je veux dire qu'au niveau individuel c'était long, mais au niveau archéologique c'est très court, 15 ans, on a 4 stades d'occupation différents. On a le premier stade sans rien, c'est-à-dire qu'il est probable qu'il commence par s'installer sous la tente. Un cyclone survient qui est marqué dans le sol, qui le remporte probablement leur habitat léger. Et à ce moment-là, ils se mettent à construire leur premier bâtiment. Mais les premiers bâtiments sont détruits assez rapidement. On ne sait pas s'ils ont été détruits, et c'est peut-être les deux d'ailleurs, par un accident climatique, et eux, à ce moment-là, reconstruisent autrement. Cette année, ce qui est original, c'est qu'on a trouvé 2 pans de mur, malheureusement, qui s'enfilent sur un bâtiment moderne, donc on n'a pas pu fouiller complètement, le bâtiment complètement, mais qui sont complètement inclus dans le sol archéologique, c'est-à-dire qui ont été détruits pendant leur présence. Et comme c'est bien, c'est détruit, c'est arasé, l'image, c'est plutôt que peut-être que le bâtiment a commencé à être détruit par un événement climatique, mais qu'après, ils l'ont démonté pour reconstruire ailleurs. Puis après, il y a la construction de ce hameau, là, avec, il y a une dizaine de bâtiments groupés, puis la construction de ce mur imposant au centre de ce hameau. À une époque, probablement, ils n'étaient plus très nombreux et ils n'utilisaient pas la totalité des bâtiments. Quant à savoir s'il y avait un chef ou pas un chef, ça ne c'est pas possible. Le seul élément intéressant sur leur psychologie, c'est la découverte de bijoux. Cette année, on trouve une bague faite d'un fil de cuivre, c'est-à-dire qui fait un millimètre d'épaisseur, une bague ouverte, et une petite chaînette faite avec un fil de cuivre dont les mailles sont en forme de S. Donc là aussi, c'est pareil, on voit que c'est un bijou très, très, très humble, mais qui marque bien que, puisqu'il n'y a presque plus que des femmes à la fin, qu'elles ont accepté leur statut et qu'elles construisent une vie comme elles peuvent, mais avec des indices de vie normale, quoi. Enfin normale entre guillemets. Quoi.
Donc le calvaire va durer 15 ans. Pourquoi et comment cela va-t-il se terminer ?
Bien, ça se termine d'une manière très qui moi au début m'a paru étrange, mais en fait qui s'explique par l'insistance du premier lieutenant à essayer d'obtenir qu'on envoie des secours pour voir s'il y avait des rescapés sur l'île. Donc au départ le gouverneur refuse et n'envoie pas de bateau, et il se trouve que 11 ans après, donc l'idée ne l'a pas quitté, le premier lieutenant s'adresse au ministre de la Marine en disant « Je vous écris par humanité, il faudrait absolument aller envoyer un bateau pour vérifier qu'il n'y a pas de rescapés sur l'île de Tromelin ». Et apparemment, le ministre va accepter de considérer l'affaire, demande un rapport, et probablement, mais ça je n'ai pas retrouvé encore, mais donne des ordres pour qu'on envoie un bateau pour voir s'il y a des rescapés. Alors en ce qui concerne les bateaux qui viennent pour le sauvetage, il y aura eu donc trois bateaux qui ne réussissent pas à sauver les rescapés. Et finalement, c'est la Dauphine, qui est une corvette de la Marine royale, commandée par Tromelin, donc qui va donner son nom à l'île, qui réussira à récupérer les naufragés. Bon, d'abord, il s'est instruit des échecs précédents. Il a embarqué une pirogue qui va permettre de faire le transfert plus facilement. Et donc les sept femmes et le bébé vont être ramenés à l'île de France, donc l'île de Maurice actuelle. Et le petit garçon va être baptisé. La mère, sa mère et sa grand-mère, qui font partie des rescapés, vont être pris en charge par le gouverneur dans sa maison civile. Voilà.
Yeah. natagam ken piatera belan velu mindra
ye wella
ye na
wono ye wella
ye pialla kelle
ye wella
ye waltindi kwe
ye wella
ye wella ye wella ye velu mindra ye
wella.
Dernier extrait d'interview du jour où il est question du retour et de la prise en charge des rescapés à l'île Maurice. C'est parti.
Et donc à leur retour, les 8 rescapés sont accueillis avec bienveillance.
Plutôt, oui. D'abord, ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai retrouvé le certificat de baptême du petit garçon, qui s'appelle bien sûr Moïse, et qui a le prénom du gouverneur. Donc le gouverneur prend en charge dans sa maison civile le bébé, sa mère et la grand-mère. Et sur ce certificat de baptême, on apprend que la mère est bien sûr... Les esclaves sont systématiquement débaptisés, donc ils ont un nom malgache, mais quand ils arrivent, on oublie le nom malgache et on leur donne un nom. Elle s'appelle Ève, et la grand-mère est baptisée Dauphine, du nom qui les a sauvés. Donc voilà l'histoire du sauvetage qui n'est pas inintéressante. Et donc on propose aux femmes de les ramener à Madagascar, et elles refusent. Et ça se comprend, c'est-à-dire que d'une part, elles n'ont aucune envie de retourner dans un circuit où elle risque de nouveau d'être esclave, mais surtout, à Madagascar, c'est une infamie, c'est-à-dire avoir la marque ou être perçu comme un esclave, c'est être rejeté dans la société, donc elles ne veulent pas retourner à Madagascar.
Et donc, où ces femmes vont-elles aller vivre ?
Ben, elles vont rester à l'île de France, qui est l'île Maurice actuelle. Donc, j'ai dit, le bébé, la mère et la grand-mère dans la maison du gouverneur, et les autres, je pense, vont être employés comme quasi-esclaves, parce qu'elles ne seront pas esclaves, mais elles sont affranchies, et leur statut est un statut de domestique ou quelque chose comme ça. Du point de vue de la généalogie, il y a un événement important, c'est-à-dire qu'un jour, je reçois un email d'une jeune femme, qui habitait en France d'ailleurs, et qui me dit, est-ce qu'un esclave peut porter le nom du bateau qui l'a transporté ? Alors j'ai dit, je ne sais pas, mais dans notre cas, bien que ce ne soit pas un navire négrier, la grand-mère est baptisée du nom du bateau qui l'a ramené. J'ai dit, mais pourquoi vous me demandez, vous posez cette question ? Elle m'a dit, parce que ma grand-mère s'appelle Lutile, qui est le nom du bateau qui a fait naufrage. Et effectivement, bon, elle était très, très, apparemment... Elle posait ses questions avec beaucoup de discrétion, des petites phrases, et elle ne s'étendait pas beaucoup sur la question. Mais on réussit à échanger pendant une demi-douzaine de messages. Et je lui demande, est-ce que ça vous intéresse qu'on mette cet échange sur le forum de notre site ? Parce que ça me paraît intéressant, votre question et vos réponses. Et elle me dit, non, surtout pas. Et pour moi, ça a été très très important, parce que je m'intéressais depuis longtemps à la traite et à l'esclavage. Et pour la première fois, j'avais vraiment une vraie raison de travailler et à essayer d'élucider, de parler de ça. C'est quand je me suis rendu compte qu'une personne qui pourtant était descendante au 4 ou 5e degré d'esclave refusait qu'on en parle de peur de paraître, d'être perçue comme une esclave. La même réaction d'ailleurs que les femmes à qui on propose de retourner à Madagascar. Et donc, 300 ans plus tard, on a la même réaction. Donc, ce qui m'a motivé de plus en plus pour continuer dans cette voie-là. Et je crois qu'il y a une vraie raison de continuer à parler de l'esclavage sans parler de problèmes politiques ou de victimisation de population. C'est bien pour redonner aux gens qui ont ces réticences la parole et la possibilité d'accepter qu'ils sont descendants d'esclaves.
Max Guérou, merci beaucoup.
Merci.
Voilà pour cet entretien accordé en mars 2019 et entrecoupé de musique malgache. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité sur internet. sur les sites de streaming. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour autre chose. On quittera cette île de Tromelin et on s'écoutera du son principalement. Voilà, voilà, vous savez tout. À la semaine prochaine, c'était à la recherche du groove perdu et on se laisse avec ces morceaux de musique traditionnelle malgache qui ont illustré toute l'émission. Ciao.
Eu, Deus! Yeah!